Max Jasinski, le bon ivrogne. Sur les bords fleuris du Lot, non loin des causses stériles qui semblent monter jusqu'au ciel bleu, dans un riant village, entouré de vignobles, vivait jadis un homme appelé Perrin, que tous les paysans aimaient et blâmait à la fois. Il l'aimait parce qu'il était inoffensif et toujours joyeux, mais il le blâmait parce que, de l'océan aux Cévennes, c'était le plus grand ivrogne qu'on eût jamais connu. On n'avait qu'à le regarder d'ailleurs pour être fixé. Ses joues boursouflées, son nez violet, ses yeux rouges, ses mains tremblantes, sa démarche mal assurée indiquaient qu'il devait fréquenter le cabaret plus que l'église. En effet, depuis son lever jusqu'à son coucher, en toute saison, à toute heure, pour tous les temps, il était assis devant du vin. Dans sa jeunesse, il avait été tailleur. Mais il avait peu exercé son métier. Les malheureux, qui une fois lui avaient commandé des habits, se gardaient bien d'y revenir. Tantôt, en effet, les manches d'un pourpoint étaient à l'envers, tantôt le pourpoint n'en avait qu'une, et tantôt il en avait trois. Les mantes noires des femmes, quand elles sortaient de ses mains, semblaient destinées tantôt à des géantes, tantôt à des petites filles. Et dans les capuchons, tantôt on aurait mis plusieurs têtes, tantôt on n'aurait même pas pu introduire le poing. Mais ne croyez pas que l'abandon des clients eût été douloureux. Il regarda gaiement partir le dernier, et comprenant que sa seule fonction ici-bas était de boire, il ne fit plus que boire avec sérénité. Mais comme il buvait, d'abord il examinait son vin, on admirait la transparence ou la teinte, puis il aspirait l'arôme léger et peu pénétrant, et quand il avait ainsi joui par la vue et l'odorat, il soulevait son gobelet. Lentement, il dégustait le liquide doré ou vermeil, mais le gobelet n'en conservait jamais une goutte. Alors, les paupières closes, avec béatitude, faisant claquer sa langue contre son palais, il savourait le plaisir passé et se préparait au plaisir futur. Oh, il lui arrivait parfois de se promener, mais c'était au printemps pour voir si les cèpes avaient bonne apparence. En été pour voir si les grappes étaient grosses et saines. En automne pour assister aux vendanges. Et en hiver pour se rendre compte des soins apportés à la précieuse liqueur. Un perpétuel sourire éclairait sa face rubiconde. Il souriait aux gamins qui se moquaient de lui. Il souriait aux pierres sur lesquelles il trébuchait. Il souriait aux gens, aux choses, à tout. Pourtant, il avait des soucis. Si en effet les maladies du bétail le laissaient indifférent, Si la sécheresse qui grille les herbes et tarit les ruisseaux de la Quai-Téguère. Par contre, les pluies prolongées l'alarmaient. La grêle faisait gémir, et quand, en mai, vers le soir, un ciel rouge et noirâtre, un vent froid, inspirait des craintes aux vignerons, il courait éperdu dans les vignobles. On l'aperçut même un jour qu'on redoutait une gelée nocturne, retirer ses propres habits pour garantir au moins quelques pieds. Il rentra presque nu, mais content de lui-même. Son âme, ses pensées, ses rêves erraient sur les coteaux où verdoient les pampres, dans les cuves où fermente le vin nouveau, dans les tonneaux sombres où il se repose et se bonifie, dans les vastes brocs où le buveur, en se penchant, voit comme dans un miroir son visage réjoui. Il disait de ceux qu'il aimait: « Oh, ils me sont chers comme du vin vieux !» Et de ceux qui lui déplaisaient: « Ils me peinent comme du vin aigri !» Il ne souhaitait pas « Bonjour, mais bon vin !» Et si, dans sa cervelle enfantine, c'était représenté le paradis, il a supposé du vin toujours pur, dans des brocs toujours pleins, quoique on y puisse toujours. Cependant, il vieillissait. Ses voisins lui donnaient de sages conseils. Il les approuvait, puis s'en allait boire. Son curé lui faisait de la morale. Il l'écoutait avec déférence, puis s'en allait boire. Sa femme criait, l'injuriait, le menaçait et approchait de sa trogne son poing furieux. Il se taisait avec mansuétude, puis s'en allait boire encore. Bien plus, comme il se réveillait parfois vers minuit et que le cabaret était fermé à cette heure-là, il posait chaque soir à terre, près de son lit, un grand broc plein de vin. Or, une fois, pendant son sommeil et en profitant, sa femme, méchamment, remplit le broc d'eau pure. Vers minuit, Perrin, ouvrant un œil languissant, fit normalement le geste habituel et allongea la main dans l'obscurité. Il attrapa l'anse, porta le broc à ses lèvres et avala quelques gouttes. Ce fut un clameur terrible de l'eau. Pour la première fois de sa vie, il avait pris de l'eau. Mais le saisissement fut tel que le pauvre Perrin en mourut. On l'enterra dans un coin du cimetière, auprès du mur gris, où venait chauffer le soleil. L'année suivante, une vigne poussa au-dessus de lui. Elle grandit. Chaque semaine, plus vigoureuse, elle déploya ses bras souples et vigoureux qui recouvrirent les feuilles vertes. Et chose admirable, quelques mois après, parmi le feuillage, des grappes lourdes pendirent, les unes couleur de paille et les autres couleur de rubis. Et après la maturité, au lieu de se dessécher, elles laissèrent crouler sur le sol des larmes de pourpre et des larmes d'or. Et ce raisin miraculeux embaumait plus que des roses. Les griffes qui les becquetaient s'en allaient ivres tout de suite, et les villageois qui venaient en foule pour admirer et contempler le prodige s'en retournaient grisés par l'odeur seule, chantant et chancelant. Ainsi, tous les ans, verdissait, bourgeonnait et s'épanouissait le corps de Perrin, le bon ivrogne. Et parfois, au pied de la vigne merveilleuse, quand en septembre on avait mûri le fruit, on entendait comme un soupir lointain. On se sentait effleuré comme par une aile invisible. On entrevoyait comme une brume impalpable et translucide, et pourtant réelle. C'était son âme qui, de l'autre monde, revenait rôder avec tristesse autour des raisins gonflés de suc, unique délectation de sa vie terrestre, et dont la mort même n'avait pas effacé la mémoire.